Place Info.
Bonjour William Simonin.
Bonjour Jérôme.
Cet été, Amazon, Google, Microsoft ou encore Apple ont avoué que leurs assistants vocaux avaient parfois les oreilles qui traînent. C'est-à-dire que des opérateurs humains étaient amenés à écouter des enregistrements de conversations privées. Alors évidemment, c'est un peu inquiétant hein, en termes de vie privée et de respect de la vie privée. William Simonin, vous dirigez la start-up française Vivoca, basée à Metz, qui a mis au point elle aussi un assistant vocal. On va en parler. Mais d'abord, est-ce que ces affaires récentes signifient qu'on doit se méfier des assistants vocaux?
Alors se méfier, je dirais pas jusque-là. Par contre, pour moi, c'est quand même important de comprendre déjà quand on parle d'un assistant vocal, quand on parle de technologie de reconnaissance vocale, ce qui se passe derrière pour vraiment comprendre effectivement pourquoi est-ce que certaines entreprises, du coup, ont besoin d'avoir certaines personnes qui écoutent certaines retranscriptions. Dans un assistant vocal, en fait, il y a plusieurs étapes qui vont du petit mot-clé qu'on va dire au début comme « OK Google » pour déclencher l'écoute jusqu'à la réponse de l'assistant vocal. Mmh. Et parmi toutes ces étapes, en fait, se trouve ce qu'on appelle le STT, le speech to text, qui est en fait une sorte de module qui va convertir en fait un texte qui a été prononcé à l'oral en texte écrit. Donc en fait, ces moteurs qui sont de plus en plus puissants sont basés sur des technologies telles que le machine learning ou l'intelligence artificielle d'une manière générale. Mais bien évidemment, ces technologies ne sont pas parfaites. Et en fait, dans un cadre d'amélioration, c'est principalement pour cela que justement ces opérateurs du coup font appel à plusieurs personnes humaines pour aller tout simplement vérifier et corriger les erreurs. Le but étant d'entraîner l'intelligence artificielle pour ne pas qu'elle commette les mêmes erreurs et pour s'améliorer. En l'occurrence, normalement, du point de vue technique, c'est l'explication. Là où il faut effectivement se méfier ou à minima se renseigner, c'est sur les sociétés qui ont un business model axé sur la data, typiquement Google. Donc la question derrière, c'est est-ce que nous avons autorisé ou non certains assistants vocaux à utiliser ces données uniquement pour enrichir l'IA ou également pour faire le commerce derrière? Et c'est là où c'est important du coup d'éduquer l'utilisateur sur l'utilisation de ces data après, parce qu'effectivement, ces opérateurs ont accès à vos données.
Alors, William Simonin, vous, chez Vivoca, vous développez également des assistants vocaux qui sont un peu moins connus que ceux de Google ou d'Amazon. Comment fonctionne-t-il?
Alors nous, effectivement, notre principal métier chez Vivoca, c'est la conception d'assistants vocaux sur mesure. Donc nous, on a une approche qui est totalement différente de celle des GAFA, qui ont en fait de créer l'intelligence artificielle la plus puissante au monde, qui va être très générique. Nous, en fait, on va observer du coup certains besoins. Et pour nos clients, on va en fait créer une intelligence artificielle qui va être adaptée à ce qu'ils veulent faire. Donc adaptée d'un point de vue technologique, parce que parfois, effectivement, nous avons besoin d'utiliser le cloud pour développer telle ou telle fonctionnalité. Mais d'autres fois, il faut également le savoir, un assistant vocal peut également être déconnecté, donc ce qu'on appelle un système embarqué ou un système offline.
Mais alors un assistant vocal complètement déconnecté du cloud finalement, il est moins indiscret, mais il est moins performant. Ça va être plus difficile de le faire évoluer technologiquement.
Alors effectivement, il risque de se heurter à quelques limites justement en termes d'évolution. Par contre, il n'est pas pour autant moins performant, ça va vraiment dépendre de l'utilité. Je vais vous prendre du coup deux exemples. Le premier, c'est les assistants vocaux qu'on peut retrouver dans certaines voitures. Par conséquent, il n'y a pas forcément une connexion Internet qui va être établie depuis la voiture. Si par exemple on est en forêt, pour autant, pouvoir augmenter le son justement de la voiture ou activer une fonctionnalité, ça pourrait tout autant marcher. Il y a également d'autres domaines, comme par exemple tout ce qui est au niveau de la logistique. Donc on voit souvent des images avec des opérateurs munis d'un petit casque où ils vont justement essayer d'aller chercher certains produits sur une base qui peut être en local. Il n'y a pas forcément la nécessité d'être connecté à Internet pour ça. En revanche, effectivement, au niveau des performances, on se retrouve souvent avec des systèmes par mots-clés ou justement avec des phrases et une sémantique beaucoup plus réduite.
Merci William Simonin, directeur général de Vivoca.